Podcast RTBF Sport. Complètement foot.
Je voulais faire comme la semaine dernière parce qu'on a quand même eu une belle semaine européenne une nouvelle fois avec des matchs retour d'un niveau en Ligue des Champions une nouvelle fois exceptionnel avec quelques discussions arbitrage par-ci par-là. Il n'y a pas de raison hein, en Ligue des Champions, en Pro League, parfois les mêmes combats. Et évidemment, je cache rarement que je suis un tout petit peu supporter du Barça parce que du sang catalan dans mes veines. Voilà, c'est comme ça, on se contrôle pas. On parle souvent du PSG avec Clément Tamon, qui est le plus français de nos consultants belges et le plus belge de nos consultants. N'est-ce pas, Clément? Barça-PSG, score final 1-4, qualification pour les Parisiens pour la suite de cette compétition. Votre avis sur cette rencontre? Il n'y a pas de piège. J'ai pas invité Alexandre Boucaud pour nous expliquer qu'il y avait pénalty sur Gundogan. Ça, je l'ai fait moi-même sans problème avec tous les supporters des catalans. Mais donc, Clément, votre avis sur ce match?
Non, écoute, une très belle entame du Barça avec une ouverture du score. Et puis, on s'est dit à ce moment-là, je pense que la plupart des amoureux du football se sont dit que le Barça avait fait le boulot et que ça serait très dur pour le Paris Saint-Germain de revenir. Et puis il y a cette faute d'Araujo qui permet aux Parisiens d'un peu de relancer leur match et puis de faire basculer la rencontre avec des faits de jeu forcément, mais aussi après c'était beaucoup plus facile de trouver des solutions. Et je pense qu'ils l'ont bien fait aussi parce que le Barça a chuté dans sa performance collective. Et voilà, après le Paris Saint-Germain a cette qualité, je pense, offensivement pour faire la différence. Et c'est sûr que c'est une belle performance.
Et alors, c'est la difficulté du studio de Complètement Foot, c'est qu'on peut continuer à suivre. Ça se passe comme ça en télé aussi, un petit écran discrètement pour suivre. Il y a moins de matchs le lundi soir, donc c'est plus simple, hein, Alex, on est d'accord.
On ne voit que nous.
Donc, évidemment, Real Madrid, FC Barcelone en cours, un pénalty sifflé pour les Madrilènes. Je vais demander l'avis de notre arbitre dans un instant. Vinicius convertit celui-ci, c'est un but partout au bout de 17 minutes de jeu. Un petit mot quand même sur l'élimination de l'Atleti face au Borussia Dortmund. Vous avez jeté un petit coup d'œil aussi sur ce match. Clément, surpris quand même par ce match retour du Borussia Dortmund ou pas? Ou surpris l'Atlético Madrid qui est en train de tout perdre, hein, battu aussi aujourd'hui en championnat au Deportivo Alavés 2-0.
Surpris oui et non, parce que je pense que Dortmund fait une très belle Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier qu'ils sont sortis premiers de leur groupe, avec le Paris Saint-Germain dedans, avec un groupe difficile. Et ils en sont sortis vaillamment, avec beaucoup de qualité. Et ici, sur cette rencontre allée à l'Atleti, ils sont restés vivants grâce au but de Sébastien Haller. Et au match retour, ils avaient fait le job en menant 2-0. Ils se sont fait rejoindre de partout. Et ils ont eu ce regain de caractère et de qualité aussi pour faire la différence. Et puis, je pense, pour justement se qualifier. Maintenant, ils vont retrouver une fois de plus le Paris Saint-Germain en demi. Ça sera très intéressant de voir comment ils ont su aussi progresser dans leur performance pour affronter le Paris Saint-Germain.
On est confiant du côté français hein, sur ce tirage déjà. Je pense qu'on peut dire ça comme ça.
Oui, parce que
peut-être pas du côté du PSG. Je veux dire des
suiveurs
et des journalistes.
On est confiant surtout sur le chemin à suivre pour aller jusqu'en finale. C'était plutôt le chemin le plus facile.
Exact.
Tous les cadors sont de l'autre côté. Et on se dit forcément que c'est peut-être l'année ou jamais pour aller en finale. Mais ça sera pas si facile que ça parce que, je me répète, Dortmund est une équipe très, très valeureuse avec beaucoup de qualité.
Clément Tamon, notre consultant Complètement Foot. On fait quelle phase dans l'ordre, Alexandre Boucaud? J'ai un arbitre à ma disposition. Mon rêve se réalise. Alex, on va revenir sur ce match de mardi en Ligue des Champions dans un instant. Mais donc là, le Real Madrid, il y a un instant, une faute sur Vasquez qui fait le dribble, la jambe tendue du défenseur. Est-ce que il y a pénalty?
Jambe tendue du défenseur. Voilà. Vasquez joue bien le coup, c'est pénalty. Zéro discussion.
Clément Tamon, on a...
Pas mieux. Hein.
Rien à dire, pas mieux. Donc voilà,
avantage
les
arbitrage.
Supporters catalans passent une formidable semaine au niveau de l'arbitrage parce que l'arbitre roumain, monsieur Kovacs, a été décrié du côté barcelonais, entre autres par Javier Hernandez en conférence de presse alors qu'il s'était promis de ne plus jamais rien dire concernant les arbitres. Votre avis, votre analyse, Alexandre Boucaud, sur les trois phases dont on a beaucoup parlé, l'exclusion d'Araujo, le pénalty sur Dembélé et puis discussion ou pas, y avait-il pénalty sur Gundogan dans cette rencontre? Votre avis sur ces trois phases arbitrage?
Je crois que la phase qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la première avec l'exclusion, mais je crois qu'à partir du moment où l'attaquant a pris le défenseur de vitesse et va rentrer dans la surface, se présenter seul devant le gardien. S'il est touché, bousculé, qu'il tombe, l'arbitre a peu d'alternatives autres que de siffler la faute. Malheureusement, à partir du moment où il siffle cette faute, il y a à nouveau plus aucune alternative que de donner la carte rouge. Et je rappellerai que la faute se passe à l'extérieur ou dans le rectangle. La faute qu'il commet, étant donné que c'est une poussée, il n'essaye pas de jouer le ballon, donc ça reste, même si c'était dans le rectangle, ça reste la double sanction, pénalty rouge. Donc voilà, je crois que sur cette phase...
Il n'y a pas eu pénalty sur cette phase.
Elle était limite. Ouais. Mais bon, soit on va pas discuter du pénalty, mais voilà, la faute et la rouge sont pour moi correctes. Et il n'y a pas de... Ça suscite le débat...
Faute sur Dembélé aussi, le pénalty
sur Dembélé, il est clair et net. Et puis sur Gundogan, là, j'ai plus l'impression que c'est Gundogan qui va provoquer le contact, parce que finalement le défenseur est très prudent dans sa course, donc il reste derrière, et Gundogan va d'abord toucher avec son pied droit le genou du défenseur sans que le défenseur ne fasse quoi que ce soit dans le duel, et va toucher le pied ensuite du défenseur également, qui fait bien le geste de se retenir et de se retirer. Donc sur cette phase-là, je crois que la bonne décision, c'était de finir la phase, et le ballon est sorti, je crois, en coup de pied de but, et on a repris par coup de pied de but, et il n'y avait pas lieu de donner un pénalty. Alors évidemment, quand vous avez cet enchaînement qui est contre vous, ben, ça peut être frustrant, ça peut faire beaucoup, mais il faut aussi savoir que pour l'arbitre, ça fait beaucoup de situations aussi extrêmement complexes à juger. Donc voilà, je pense que j'ai pas un avis globalement catalan sur la prestation de Monsieur Kovac.
C'est pour ça que vous êtes là. Et objectif, Alexandre Boucaud, notre arbitre complètement foot. Je l'ai dit, moi j'ai pas eu un avis objectif sur ce match, donc je ne vais pas me prononcer. Je pense que vous avez compris. Le lendemain, qualif du Bayern Munich, Arsenal décidément qui n'y arrive pas, Clément Tamon. Et puis ben oui, ce match au bout du suspense entre Manchester City et le Real Madrid, et cette séance de tirs au but qui qualifie les Madrilènes là aussi pour la suite de la compétition. Votre avis sur ces deux rencontres?
Moi, pour celle de City face au Real Madrid, je pense que on va pas dire que la meilleure équipe l'a emporté, puisque City était au-dessus, je pense, surtout dans la proposition de jeu, la recherche de solutions, mais ils sont confrontés à un mur madrilène. C'était très compliqué de trouver finalement des situations qui auraient pu aboutir à des situations franches de but, parce que le Real Madrid est sorti un peu de son ADN où il faut proposer aussi du jeu et d'être costaud. C'est aussi la force d'Ancelotti et des joueurs et du collectif madrilène, c'est de pouvoir faire le dos rond et d'être très costaud. Ils l'ont été tout le long de la rencontre sans jamais faillir. Une grosse force collective qui leur a permis de se qualifier. Pour Arsenal, c'est vrai qu'ils ont pas encore une fois de plus réussi à franchir l'obstacle. Parce que aussi, ils se sont rendus la tâche difficile au match aller. Je pense que c'était la grosse contre-performance finalement, même si c'est le Bayern en face, ils auraient dû l'emporter à domicile. Et le Bayern, après, ça reste quand même une très très grosse pointure européenne qui a l'habitude de ses expériences et de cette pression de match, et ils ont réussi à faire la différence. Donc finalement, bon, ça reste évidemment dommageable pour Arsenal, parce que ils sont sur une grosse dynamique depuis au moins 2 ans avec Arteta. Et on aurait pensé qu'ils auraient pu franchir l'obstacle, mais c'est pas encore le cas, parce qu'en face, il y a encore une fois de plus de l'expérience qui permet de faire la différence.
Vivement ces demi-finales de la Ligue des Champions, pas, selon les points de vue, évidemment. La soirée du jeudi, c'est celle que vous avez suivie en direct sur la RTBF, évidemment, en Europa, en Conférence League. On va surtout parler de la Conférence League. Dans un instant, on va reparler du club de Bruges avec vous, Clément. Mais un petit mot sur ce match qui a aussi beaucoup, beaucoup fait parler, sur cette séance de tir au but à l'issue de Lille à Aston Villa, avec Emiliano Martinez qui prend un carton jaune de plein jeu. Et puis à cette séance de tir au but, ben voilà, on connaît évidemment le show du gardien argentin dans ses séances de tir au but, prend un deuxième carton jaune. L'incompréhension totale pour la plupart d'entre nous, d'entre eux, les joueurs eux-mêmes, Yuri Tillemans au micro de Benjamin Dessenec l'a reconnu. Voilà, il n'a pas été exclu, parce que, Alex, il faut rappeler un des points importants du règlement.
Ouais, dans la loi du jeu qui traite des tirs au but, il est bien précisé que les avertissements reçus pendant la rencontre sont supprimés pour la séance de tir au but. Ça veut dire que les joueurs des deux équipes repartent avec, entre guillemets, un casier vierge au moment de la, du dé, au début de la séance des tirs au but, les joueurs des deux équipes repartent avec un casier vierge au niveau des cartons jaunes. Et donc, pour être exclu, il faudrait prendre deux jaunes pendant la séance. C'est donc, voilà, Martinez a pris un jaune pendant la séance, et à ce moment-là, il était considéré comme n'en ayant pas encore reçu au préalable, ou en tout cas, la première reçue de plein jeu ne comptait pas. Pour être additionné à celui-là et valoir une exclusion. Donc voilà, et il y a plein de choses intéressantes dans la loi sur les tirs au but, plein de petites choses, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si une équipe, par exemple, termine le match à 10 et l'autre à 11, eh bien, il faut aller dire au coach de l'équipe à 11 de enlever un de ses joueurs. Parce que deux équipes doivent démarrer la séance de tirs au but avec un même nombre de joueurs. Voilà, c'est des petites choses qu'on voit pas, et il faudrait évidemment, pour s'en rendre compte, qu'on ait une série complète où les cinq joueurs sont passés, on refait jouer et tirer tous les autres, mais ce sont toutes des petites choses importantes.
Martinez qui en plus sera suspendu quand même pour la suite de la compétition, ouais, pour abus de carton jaune, ouais. Clément.
Ouais, mais moi c'est une situation qui m'échappe ici, parce qu'au final, en plus on connaît le personnage, il a été extrêmement influent sur cette séance de tir au but. Et finalement, ça lui.
Allez, la finale de Coupe du Monde, là, ou.
Pardon. Allez, je la sentais venir. Mais finalement, ça lui laisse quand même, vu que Alex nous dit que son casier devient vierge à la séance de tir au but, ça lui laisse l'opportunité de pouvoir influencer la séance de tir au but au moins une fois, en prenant finalement qu'une carte jaune. Et je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça très correct. Et finalement, très peu de personnes étaient au courant de cette loi. Même les joueurs pensaient qu'il allait être expulsé. Mmh. Moi-même, j'étais en train de suivre la série de tirs au but. Je me suis dit, bon, c'est bon, il va être expulsé. Au final, il a joué de main de maître cette séance de tirs au but. Il a vraiment fortement influencé, ce qui lui a permis aussi de faire pencher la rencontre et surtout cette séance de tirs au but en faveur d'Aston Villa.
Vous savez que les faits de match importants font parfois évoluer quand même les... Enfin non, je vous pose la question différemment, Alex. Est-ce qu'un fait de match aussi important de ce qui s'est passé, on connaît l'historique de ce gardien en particulier, il y a eu évidemment cette finale de Coupe du Monde face à la France, est-ce qu'un tel fait de match, alors qu'on voit une grosse occasion pour le Barça de nouveau sur un corner, est-ce que le ballon avait franchi complètement la ligne? Je pense qu'on ne le saura jamais parce que les angles de la caméra ne vont pas le permettre de nous donner le bon angle. Donc, pardon, est-ce qu'un fait de match aussi important, c'est ce qui s'est passé, une loi du jeu que tout le monde a oublié, mais forcément on ressort le petit carnet, on dit ben non, on est reparti à zéro, est-ce qu'elle pourrait évoluer dans le futur? Vous avez entendu l'avis d'un joueur ou d'un ancien joueur, d'un joueur, Clément, qui dit ben ça me choque. Est-ce que ce genre de phase pourrait faire évoluer la loi du jeu concernant ces cartons jaunes pour le gardien? Parce que, pardon, je complète, excusez-moi, c'est un peu long, Alex, on attire beaucoup, beaucoup l'attention, et Monsieur Kovacs l'a fait aussi en match de Ligue des Champions, sur le comportement du gardien dans cette séance de tir au but ou le pénalty. Donc, est-ce que, selon vous, ça pourrait évoluer? Justement, le fait que ces cartons jaunes, mais un seul carton jaune dans une séance de tir au but n'aura aucune influence.
L'IFAB et le comité de l'IFAB tient en effet compte de tout ce genre de situation, de toutes ces situations pour faire évoluer les règles. Mais cette règle-là, en particulier, a été ajoutée il n'y a pas si longtemps. Donc, à mon avis...
Parce que ça ne favorise pas de contrôler le bon comportement du gardien, on est d'accord.
Non, et ça vise principalement les gardiens, parce qu'il y a très peu de joueurs de champ. Ouais. Les joueurs de champ viennent tirer leurs pénaux, et finalement, ils sont beaucoup moins concernés, et beaucoup moins au centre des intérêts et de l'attention que les gardiens. Donc, ça vise principalement les gardiens. Mais ce que vous dites est tout à fait correct, et notamment, il y a eu un gros changement... Mais on attend encore de pouvoir s'en rendre compte parce qu'on n'a pas encore eu de situation réelle pour en juger. Mais il y a eu une grosse évolution de la règle du hors-jeu l'an dernier, enfin oui, il y a même 2 ans maintenant, suite au goal en Nations League, à la finale en Nations League, et le goal de Mbappé contre l'Espagne.
Contre l'Espagne.
Où on a jugé en position hors-jeu, on a jugé qu'il n'était pas hors-jeu parce que le ballon venait d'un tacle manqué d'un défenseur espagnol. Où maintenant, on demande que dans ce genre de situation, le tacle soit réellement le ballon soit vraiment donné de manière délibérée et de manière contrôlée, ce qui n'était pas le cas ce jour-là. Donc voilà. Il peut y avoir des situations qui suscitent beaucoup de réactions et qui causent à terme une adaptation des règles.
Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport.
Complètement foot. le best-of.
Tous pour le petit jeu en un seul mot. Merci Alexandre Boucaud, toujours compliqué hein, sur un plateau. Vous êtes arbitre, notre consultant arbitrage, ancien arbitre. Mais je vais quand même vous faire participer au débriefing des matchs. En un seul mot, complètement foot, ce match pour vous c'était ?
Ben Maurice.
Pourquoi ?
Parce que je crois que c'est la phase du 0-1 et qui change pas mal le cours du match. Donc c'est clair que c'est une phase inhabituelle, hein. Parlons-en tout de suite. Je crois qu'en matière d'arbitrage, et donc le téléphone a chauffé sur le coup, puisque
sans blague.
Hein, les commentateurs, même certains journalistes du Nord m'ont interrogé. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant quand vous voyez ce genre de situation en direct. Maintenant, que prévoit le règlement ? Il y a un article du règlement qui traite de ce genre de situation et qui dit qu'un coup franc indirect sera octroyé si un joueur empêche le gardien de lâcher le ballon ou essaie de jouer le ballon lorsque le gardien est occupé de le lâcher. En l'occurrence, à la lecture du règlement, on trouve aucune infraction sur ce qui vient de se passer avec Maurice, étant donné que voilà, il dira peut-être qu'il voulait relancer rapidement, etc.
On va l'écouter.
Mais il doit aussi veiller à son environnement immédiat. Il n'y a pas de règle de distance minimale à respecter entre l'attaquant et le gardien. Il faut juste laisser le gardien librement lâcher le ballon pour le dégager. En l'occurrence, l'attaquant brugeois n'a à aucun moment empêché Anthony Maurice de lâcher le ballon. Et donc, on doit accepter ce but.
Alexandre Boucou, notre arbitre RTBF Sport. Je vais faire réagir Clémentin. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Anthony Maurice à l'issue de ce match. Une interview officielle Pro League. On l'écoute.
Il y en a des milliers comme ça de dégagements qui sont annulés chaque semaine. Moi ici, je dégage parce que je vois Cameron Puertas partir dans la profondeur, il laisse traîner le pied. Donc voilà, je lui demande un petit peu pourquoi il annule pas le but, parce que ça se fait régulièrement. D'abord, il me sort qu'il me faut 2 mètres, mais j'ai dit que 2 mètres entre moi et le joueur, ils y étaient pas. Donc il doit l'annuler, il valide le but et à la fin du match, je lui demande et il me dit que c'est à l'interprétation et que pour lui, il jugeait que l'espace était suffisant entre moi et le joueur pour que je la mette. Je pense que, voilà, après, je sais pas, je l'ai pas revu, je sais pas. Je sais pas, c'est une de l'interprétation, voilà, c'est comme ça.
Oui, le point du règlement dans la loi 12 parle du lâcher du ballon. C'est ça qui entre en ligne de compte et pas une question de mètre ou d'obstruction. L'arbitre lui parle de 2 mètres, mais les 2 mètres, ça n'a rien à voir.
Ah ben oui, ben c'est ça. On a bien vu qu'il était perdu, il ne savait pas quoi faire. Donc je pense qu'il a tout remis sur le VAR ici, à partir du moment où le VAR n'intervient pas. Mais là, on voit clairement que le ballon est lâché. Et je pense que si à un moment donné, ce sont des gens aussi qui sentent le jeu, ils voient très bien que Cameron Puertas part dans la profondeur. Quand tu connais mon jeu, tu sais que j'aime ces relances rapides, etc. Donc voilà, ici, je ne sais pas pourquoi il a pas annulé aujourd'hui. Il faudra lui demander la prochaine fois qu'est-ce qu'il va faire. Ben, on verra ça avec attention.
Anthony Maurice, donc l'interview après ce match sur cette phase précise. Il y a 2-3 choses. Je voudrais faire réagir Alexandre Boucaud, évidemment, dans un instant, pour rappeler la loi du jeu, comme vous venez de le faire. Clément, votre avis sur cette phase ?
Bah non, mais je vais me fier à ce qu'a dit Alex et je suis plutôt d'accord avec lui. Je pense que il y a déjà effectivement d'une part pour Maurice la gestion de son environnement direct sur le dégagement et je ne vois pas de gêne particulière du joueur brugeois. Je trouve qu'il est à probablement une distance minimale de 2 mètres, j'ai le sentiment. Ce n'est que mon sentiment. Après, si c'est un ressenti direct de l'arbitre terrain, il a jugé que c'était pas une faute ou en tout cas une gêne au niveau de Maurice. Donc pour moi, le but est logiquement valable. Il n'a pas totalement tort non plus, hein, Maurice, dans le fait qu'il nous explique que c'est pas la première fois qu'il y a des situations de ce genre et que l'arbitre siffle faute. Mais il faut aussi revoir aussi ces fautes-là. Est-ce qu'il y avait gêne concrète. En tout cas, sur cette situation-là, ce n'est pas le cas. Et pour moi, le but est justement validé et valable.
Anthony Maurice nous parle de distance. Clément reparle de ces fameux 2 mètres. Rappelez-nous, Alex, ça a une importance, ces 2 mètres. Il faut y avoir cet écart ?
Aucune. Il n'y a qu'un endroit dans les lois du jeu où on parle d'une distance de 2 mètres entre deux personnes. Et il n'y a que Christiane Burgess qui pourrait l'invoquer, puisque c'est sur les rentrées en touche. Donc...
Voilà, évidemment, un peu d'humour aussi de notre arbitre. Il n'y a pas de raison.
Mais en l'état, sur cette situation-ci, il n'y a aucune distance qui est mentionnée dans le règlement.
Avez-vous eu l'impression que M. Vergoot se repose sur son VAR, prend la décision Anthony Maurice nous dit, il ne sait pas ce qu'il fait, il réfléchit lui-même, il ne sait pas trop et il attend. Est-ce que vous avez eu cette impression-là maintenant face à votre télévision? On n'est pas sur le terrain, on n'a pas le même ressenti. Je réexplique le contexte. On est ici à côté de notre studio radio. Vous êtes face à la télévision. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il ne dominait pas les événements et qu'il s'est appuyé sur le VAR en se disant, bon, on va voir ce qui se passe. Il n'y a pas de raison d'annuler ce but.
Je pense que au moment où je l'ai vu, j'ai dû être plus ou moins dans le même état que lui. Ça veut dire troublé, parce que c'est quelque chose de totalement inhabituel. Et là, tu te dis, ouf, qu'est-ce que, hein, à un moment, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, sans doute que très très vite, il se dit, bah oui, finalement, il y a rien qui va mal. Donc, il a validé, parce qu'il doit prendre une décision. Donc, il a validé. Et puis ensuite, il y a check du VAR. Et le VAR arrive à la même conclusion de se dire, bah non, au terme du règlement, j'ai pas d'infraction, donc je le valide.
Complètement foot. Le best-of.
Peter Yann, dernière question, je vais vous laisser filer. On va prendre congé aussi d'Alexandre Boucau. Christiane Burgess, en interview officielle d'Azone, je suis pas encore su déterminer à distance si c'était du côté néerlandophone, du côté francophone. En tout cas, c'était en anglais dans le texte de toute façon. Bien sûr, l'arbitre approuve le but, c'est le club de Bruges. Donc Christiane Burgess, qui est en interview d'après-match, qui a réagi donc suite à ce dégagement d'Anthony Maurice contré par Vetlesen dans son propre but. Voilà, laisser planer le doute concernant l'impartialité de l'arbitrage dans cette rencontre. C'est ce qui a circulé aussi après ce match, vous qui étiez et qui êtes là-bas toujours. Peter Yann, votre avis?
Oui, on a entendu, on a noté ce qu'il a dit, mais bon, je pense qu'il devient temps que Burgess se focalise sur le foot et sur son propre niveau. Et ça serait mieux, je pense, de voir des complots et ou autre chose, je pense que non. Ça devient temps que Burgess joue au foot à nouveau. Ça serait temps pour tout le monde.
Ouais, je pense que tout le monde est d'accord ici autour de la table. Je ne connais pas complètement les règles. En plus, il l'avoue, mais je ne pense pas que ce garçon. Je pense que ce garçon voulait bloquer le ballon et il était trop près. Bien sûr, l'arbitre approuve ce but car c'est le club de Bruges.
Si j'étais le parquet, j'interviens.
Voilà, j'allais vous poser la question. En mode de conclusion, Alexandre Boucau, il y aura des suites certainement.
Je ne sais pas, mais c'est le genre de commentaires qu'il faut bloquer et pour arrêter les polémiques. Et en effet, il y a intérêt à se concentrer sur son football.
Que le coach lui-même de l'Union Saint-Gilloise, et on l'avait tous discuté ici autour de cette table, avait un peu lancé la polémique, même avant qu'il y en ait réellement, en tout cas pour le début de ses play-offs. Hein.
On en avait parlé, c'était même pas justifié, parce que si on regardait les dernières semaines, finalement, l'Union, en dehors du match à l'Antwerp, avait très peu à se plaindre de l'arbitrage. Là où pour Anderlecht, il y avait des moments où ils avaient été favorisés, d'autres ils avaient été défavorisés. J'avais repointé notamment le match à Malines, hein, où ils avaient un pénalty qui n'était pas non plus vraiment justifié contre eux, etc. Donc Bruges avait été assez constant et régulier pendant la saison. Donc voilà, c'est dommage et ce serait mieux en effet qu'ils se concentrent sur le foot qu'ils savent très très bien faire quand ils veulent.
Complètement foot. Le best-of.
On a beaucoup parlé d'un duel, d'un mano à mano, entre évidemment les deux clubs bruxellois. On se retrouve avec un carré d'as en 4 points. Le titre va se jouer finalement entre 4 équipes, la magie ou les défauts des playoffs, c'est selon les points de vue. PJ, votre avis, et comme ça on enchaîne dans la suite de cette Champions Playoff, cette victoire du Racing Genk hier contre le Sporting Anderlecht, 2-1, votre avis sur cette rencontre, PJ?
Oui, c'était très mérité pour moi, malgré le fait que pour moi le penalty c'est logique, c'est correct, c'est cohérent vu de la saison. Mais moi, j'ai pas trop aimé le penalty pour être honnête. Mais à la fin, je pense que la victoire était très très méritée pour Genk. La différence était grande et je pense que Anderlecht, mais je l'ai déjà dit dans le passé aussi, ils doivent lever leur niveau pour pouvoir être champion dans ces playoffs. Surtout maintenant, tu as 4 équipes qui sont capables de devenir champion. Bon, si tu veux être champion, il va falloir faire une série ou élever ton niveau, en tout cas. Donc, non, pour moi, la victoire était méritée.
Peter Yann Kalkoun, journaliste Newsblatt. Votre avis sur cette phase précisément, autre phase dont on va parler, reparler. On a déjà parlé du côté anderlechtois des supporters, des supportrices anderlechtoises. Faute de bras, de mains, de sardella dans le rectangle, y avait-il pénalty Alexandre Boucaud ?
Bah oui, si on prend la phase et le règlement tel qu'ils existent aujourd'hui, c'est une décision correcte. Dans le sens où Sardella a son bras gauche vraiment collé sur sa poitrine. Donc s'il y avait eu un contact uniquement avec ce bras-là, le VAR serait intervenu à coup sûr pour annuler. Mais il a son bras droit qui est écarté et on voit bien avec la caméra arrière-goal que la balle va frapper sa main et sa main, due à l'impact, va partir en arrière. Et là, à ce moment-là, on a un ballon qui va droit au but avec un bras qui est écarté et qui est plus collé au corps. Donc, par contre, je suis aussi convaincu que l'arbitre a sifflé au feeling, hein, parce que c'est très difficile, ça va très vite. Et je pense que comme la main est derrière le corps, c'est très compliqué à voir. Donc, il a sifflé au feeling, mais voilà, parfois, vous devez avoir de la chance. Et son feeling lui a donné raison sur ce coup-là. Donc, voilà, et je peux accepter les commentaires. Et je pense que je suis sur du velours après le commentaire de Peter Yann, qui pense aussi à un pénalty, même si on n'aime pas ça. Mais OK, les règlements sont faits. Et j'aime bien aussi le mot cohérence, uniformité. C'est ça qu'on veut. Et donc voilà, il faut que si ça se passe la semaine prochaine, ben on prenne la même décision.
Clément Tamon, votre avis sur cette phase ?
Pour moi aussi, c'est une faute de main. Et je me réfère surtout au feeling arbitre. J'ai eu le sentiment qu'il a décidé extrêmement rapidement la décision parce qu'il était très sûr de lui. Il avait analysé. Quand on regarde bien la situation, il est logiquement dans la ligne de la situation de main et il n'hésite pas une seule seconde. Donc à un moment donné, quand tu n'hésites pas une seule seconde aussi, ce qu'il a trouvé juste que c'était effectivement une faute de main, je vais pas dire délibérée, mais c'est le règlement. Et moi aussi, j'ai du mal avec ça, mais ça fait partie aujourd'hui des règles du jeu. Et étant donné, comme l'a dit Alex, que son bras, donc c'est son bras droit qui, en tout cas, le ballon vient heurter sa main, et on a le sentiment qu'il est un peu plus décollé que le reste du corps. Mais
ça augmente la surface corporelle, la surface, tout simplement.
Et l'aspect délibéré, voilà, c'est la surface corporelle qui augmente et il prend pas de carte jaune comme ça aurait été le cas jusqu'à il y a un ou deux ans passés où on disait un shot vers le but c'est jaune, un centre, une main sur un centre c'est pas de carte, c'est terminé. Il faut qu'il y ait une volonté de me faire une main d'anti-jeu pour prendre la jaune. C'est pas le cas ici, on est d'accord. Mais il a grandi sa surface corporelle. Et donc, voilà, c'est une faute. Sans carte jaune, c'est pénalty.
Monsieur Lardo, qui était aussi sifflé pour ce match, aurait sans doute dû donner un carton jaune aussi à Yann Vertonghen pour cette petite faute à la limite, voire en dehors du terrain, sur le côté ?
Je pense, oui. Parce que là, on est dehors du terrain et on peut provoquer avec ça beaucoup d'irritation chez l'adversaire. C'est une faute de frustration. Il n'y a pas de violence qui justifie une carte rouge, évidemment. Mais c'est une carte jaune, pour moi, claire, qui aurait dû être donnée.
Pour ne manquer aucun podcast RTBF Sport, abonnez-vous. Nos podcasts sont disponibles sur rtbf.be/ovio ou via votre application podcast.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.